Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Hulin, page 2, Daf Bet. Bonne écoute et bon limoud.
Dans le premier pérec, le premier chapitre est consacré à la mitzvah de Shrita, l'abattage rituel. Le traité de Hulin est le troisième du cinquième ordre de la Mishnah, appelé Kadashim, et qui traite de tout ce qui concerne le Beit HaMikdash, le temple et son fonctionnement, et en particulier des korbanot, des sacrifices. Le Rambam Maïmonide introduit ainsi le traité de Hulin. Après que l'on ait appris toutes les lois relatives aux korbanot, aux sacrifices, dans les deux premiers traités de Zvachim et Menachot, et on a vu que la Shrita, l'abattage rituel, constitue la première étape du service des sacrifices, nous allons maintenant parler de la Shrita, de l'abattage rituel, des animaux qui ne sont pas kadashim, sanctifiés, mais chulin, profanes, pour la consommation de tout un chacun. Le Rambam dit en effet, au début des Ilchot Shrita, que la Shrita est une mitzvah, un commandement actif, qui s'adresse à celui qui voudrait consommer de la viande, de bétail ou d'oiseau, et la Shrita, appelée également Zvicha dans la Torah, est la façon d'abattre rituellement cet animal par égorgement. Et comme le dit le Rambam dans la Halakha Dalet du même chapitre, il nous faudra définir à quel endroit précis de l'animal doit être opérée la coupure, quelle en est la taille requise, quelles sont les caractéristiques de l'ustensile avec lequel on fera la Shrita, à quel moment et où peut-on faire la Shrita, comment doit être effectuée la Shrita, et quels sont les éléments qui peuvent l'invalider, et qui peut être Shochet, qui est en mesure de procéder à cet abattage rituel. C'est par ce dernier point que Rabbi Yehuda Hanassi, le compilateur de l'ensemble des six ordres de la Mishnah, a choisi de débuter notre Gemara. Ainsi commence la première Mishnah. À Kol Shochatin, tout le monde peut effectuer l'abattage rituel, et chaque fois qu'il y a à Kol dans la Mishnah, qui signifie tous, cela vient inclure un cas précis, et cela va faire l'objet des premières pages de la Gemara. Rashi rapporte déjà, il y a à ce sujet une discussion entre les Amoraïm, les sages de la Gemara. Selon certains, ce hakol inclura le tamé, une personne qui est impure car elle est entrée en contact avec une source d'impureté. Selon d'autres, cela inclura le kouti, le karaït, dont la conversion a été incomplète. Selon d'autres enfin, ça inclura le moumar, le renégat sur certains points. Hakol shochatim, dit donc la Mishnah, tous ceux qui sont inclus peuvent faire la shrita, veshritatan kshera, et leur shrita sera kasher, elle sera valable. La Gemara va également expliquer pourquoi la Mishnah a employé cette double expression. Tout cela donc peuvent faire la Shrita, chutz mi cheresh shote vekatan, hormis le cheresh, le sourd-muet, le shote, le fou, et le katan, l'enfant, shema yikalkelu et shritatan, de crainte qu'ils n'invalident leur Shrita, par manque de conscience ou d'attention à tous les détails nécessaires. La Mishnah continue, vechulan sheshachatu, et tous ceux qui ont été inclus, s'ils ont quand même fait la Shrita, ve'acherim roinotan, et que d'autres les ont surveillés, Shritatan kshira, leur Shrita sera valable à partir du moment où elle a été surveillée et acquiescée par les surveillants. Nous ne nous attendons pas davantage sur l'explication de ces trois lignes de Mishnah, car elles vont faire l'objet dans la Gemara d'un commentaire de plusieurs pages. Gemara. Akol shochatin lechatrila, ve'shritatan kshira diavad. La Mishnah commence par deux expressions qui semblent contradictoires. Lorsqu'on dit à Kol Shochatin, on permet à tous ceux dont on parle de faire la Shrita, l'abattage rituel, l'Echatrila, c'est-à-dire de prime abord. A priori, s'ils viennent demander à un Rav, est-ce que je peux faire la Shrita, on va lui dire oui, tu peux faire la Shrita. En revanche, dans la seconde expression, lorsqu'on dit Shritatan Kshera, leur Shrita sera valable, cette expression a une connotation de diavad, c'est-à-dire a posteriori, comme si on disait, a priori, il n'aurait pas fallu faire cette shrita, mais maintenant qu'elle a été effectuée, elle sera quand même considérée comme valable, bediavad, c'est-à-dire a posteriori. Amarle, Ravacha berede Rava, le Ravashi. Ravacha, le fils de Rava, demande à Ravashi. Vechol hakol lechatrilahu. Chaque fois que la Mishnah emploie l'expression de hakol, tout le monde ou tous peuvent faire telle ou telle chose, est-ce que dans tous les cas, cette expression signifie-t-elle que la chose est permise l'echatrila, de prime abord? Il y a pourtant des contre-exemples. Et là, mais pourtant, la première Mishnah de Tmura dit, Hakol Memirim, Echad Hanashim, Vechad Hanashim. Le principe de Tmura est le suivant. Dès que l'on a sanctifié, réservé un animal pour qu'il soit offert au Beth Amigdash comme sacrifice, on ne peut revenir sur cette parole. Et si, bien que cela soit interdit, le propriétaire voulait faire une Tmura, c'est-à-dire échanger le premier animal qu'il a réservé contre un second, et dire que la Kdusha, la sainteté du premier animal, soit transférée sur le second, la Torah dit que dans un tel cas, la Kdusha du premier animal ne serait pas transférée sur le second, et les deux animaux seraient Kedushim, réservés au Beth Amigdash. Et la Mishnah qui est rapportée dit la chose suivante, « Akol Memirim, Echad Ha'anashim ve'Echad Anashim » Tous rendent un animal Tmura, c'est-à-dire que lorsqu'ils veulent transférer la Kdusha sur un second animal, les deux animaux se retrouvent sanctifiés, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes qui ont fait cette Tmura. La Gemara demande « Achanamid elechatrilahu » Est-ce qu'on va dire dans ce cas que, étant donné que la Mishnah a employé l'expression de Hakol, tous, c'est que l'Echatrila, de prime abord, on aurait le droit de faire une Tmura. Veha ketiv loya khalifenu veloyamir uto, tov bera ora betov. La Torah dit pourtant dans un verset explicite qu'il est interdit d'échanger un animal que l'on a réservé comme korban contre un autre, qu'il s'agisse d'échanger un animal ayant des défauts contre un animal sans défaut, ou l'inverse. La Gemara répond à cette objection. Atam kedektane tama. Dans le cas de cette Mishnah, la raison est expliquée dans la suite du texte. Lo shea adam rachai l'amir, et la sheim emir mumar. Mumar vesofeg et arbaim. Ce n'est pas que l'homme ait le droit de faire une tumura, mais que même s'il l'a fait malgré l'interdiction, ses paroles auront pour effet de sanctifier même le second animal. Il recevra cependant la peine de malkout, des 40 coups, ayant transgressé une interdiction de la Torah. Mais étant donné que dans notre Mishnah, il n'y a pas d'explication supplémentaire qui est fournie par la Mishnah, on est en droit de comprendre que le Hakol qui est employé signifie le Khatrila, de prime abord. La question est donc toujours justifiée. Rashi demande pourquoi la Mishnah dans Tmura n'a pas été exprimée d'une façon qui aurait été sans équivoque, en disant Kol She'emiru, Tmuratan Tmura. Pour toute personne qui a fait une Tmura malgré l'interdiction, même le second animal sera sanctifié. En employant ainsi une expression au passé, tous ceux qui ont fait une tmura, on aurait bien compris qu'il ne s'agit que d'un cas bediavad. C'est-à-dire, une fois que la avéra a été faite, la kedusha prendra quand même effet sur le deuxième animal. Et on n'aurait ainsi pas pu se tromper et penser que la Mishnah parle l'echatrila. En comprenant Hakol Memirim, tous ont le droit de faire une tmura. Rashi répond que le Tana s'est exprimé de cette façon par souci d'unité, car c'est une expression qui est très fréquemment employée dans la Mishnah. Hakol Shokhatim, Hakol Chayavim, il a donc également employé Hakol Mimirim en rectifiant le sens de l'expression dans la suite de la Mishnah. Rabbeinu Tam dans Tosfot répond différemment. Le Tana a employé dans Tmura l'expression de Hakol Mimirim pour nous apprendre que ce n'est pas seulement dans le cas où l'on aurait fait une Tmura involontairement, c'est-à-dire sans en connaître l'interdiction, que le second animal serait également Kadosh, mais même si l'on fait une Tmura délibérément, Bémézide, en toute connaissance de cause, malgré tout, la Kdusha prendra sur le second animal. Lui aussi sera sanctifié. Et c'est pour nous enseigner ce Chidush, cette nouveauté halachique, que le Tana a employé l'expression de Hakol Memirim. La Gemara apporte maintenant une seconde objection au fait que le mot Hakol introduise toujours une expression qui est l'Echatrila. Elle cite pour cela la première Mishnah de Erechin. Rappelons tout d'abord la différence qu'il existe entre Erechin et Damim. Ces deux expressions désignent la valeur financière d'une personne. Si quelqu'un fait le vœu d'offrir son erer, ou le erer de quelqu'un d'autre, en tzedaka ou bet amigdash par exemple, la Torah a fixé un barème précis de la somme qu'il devra donner, en fonction de l'âge, à partir de un mois. En revanche, si l'on veut offrir son damim en employant cette expression, on désigne la valeur marchande en tant que force de travail. Elle sera alors évaluée en fonction du prix où l'homme en question serait vendu au marché aux esclaves, comme cela a été pratiqué il n'y a pas encore si longtemps dans le monde qui nous entoure, mais malheureusement pour les esclaves, pas dans les mêmes conditions de travail que celles prévues par la Torah. Et c'est par cette Mishnah que la Gemara apporte son objection. Et là, « Akol ma'arichin vene erachin » Tous peuvent offrir leur erreur ou le erreur de quelqu'un d'autre en tzedaka. « Vene erachin » signifie que tous gardent la valeur qui leur est fixée par la Torah, même s'ils sont diminués physiquement ou malades. Nodrim venidrin. Et en ce qui concerne maintenant les damim, la valeur marchande de la personne en tant que force ou potentiel de travail. Également, tous peuvent offrir en tzedaka leur valeur ou celle de quelqu'un d'autre. Et tous ceux qui ont une quelconque valeur marchande seront également évalués. Dans ce cas-là, même un bébé de moins de 30 jours aura une valeur en tant que potentiel de travail de damim, mais il n'a pas de erreur, car la Torah n'a pas fixé pour lui de valeur. Cette première Mishnah de Erchin nous apprend donc que tous peuvent réaliser ces différents types de vœux. La Gemara demande « Achin amid elechatrila » Peut-on dire dans ce cas qu'il est permis de le faire de prime abord ?« Ve'haktiv ve'chiterdal lindor lo yihie bechachet » La Torah dit « Lorsque tu arrêteras de faire des vœux, il n'y aura plus de faute en toi. » « Vektiv » Il est également écrit dans Kohelet « Tov asher lo tidor » Michetidor Velotechalem. Il est écrit juste avant, comme le rapporte Rashi, les vœux de Tzedaka que tu as formulés, tu dois les honorer. Et il est encore mieux de ne pas faire de vœux, de peur que tu fasses un vœu et ne l'honore pas. Vetania. Et une braïta dit à ce propos, Tov mise ou mise, chez Nonoder Kolikar, Divré Rabbi Meir, la meilleure attitude, qui dépasse les deux précédentes, est de ne pas faire du tout de vœux, d'après Rabbi Meir. Rabbi Yuda Omer, Tov mise ou mise, Noder ou Meshalem. D'après Rabbi Yehuda, la meilleure attitude des trois, encore plus que de ne pas faire de vœu du tout, est celle de celui qui fait un vœu et honore ce vœu. Vafilu Rabbi Yehuda, lo ka'amar ela be'omer arezu. Même selon Rabbi Yehuda, cette attitude sera la meilleure seulement dans le cas où le vœu était exprimé de la façon suivante, la bête que voici est destinée au Beth Amikdash. Car dans ce cas, il ne sera pas tenu de remplacer l'animal s'il meurt ou est volé entre le moment du vœu et le moment où l'animal est effectivement offert au Beth Amikdash. Nous tournons la page. Avalamar.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous passons à Daf Bet Amud Bet.
Avalamar Arealai Lo. Mais si le vœu a été formulé en disant « Je prends sur moi » d'offrir un animal au Beth Amikdash, cas dans lequel il sera tenu d'offrir effectivement coûte que coûte un animal au Beth Amikdash, même s'il doit pour cela perdre plusieurs bêtes. Dans ce cas-là, même Rabbi Yehuda sera d'accord que de ne pas faire de vœux du tout est la meilleure attitude. La Gemara demande maintenant à l'inverse, Vechol Hakol Lav Lechatrilahu. Chaque fois qu'une Mishnah commence par Hakol, va-t-on dire qu'il s'agit d'un enseignement qui n'est pas permis Lechatrila de prime abord? Et là, il y a pourtant des contre-exemples. Akol Chayvim Basuka, tous sont tenus de vivre dans une soukha pendant Soukhot. Akol Chayvim Batitit, tous sont tenus de mettre des tzitzit, des franges, à leurs habits à quatre coins. Achinami de lav lechatrila, comment pourrait-on dire que dans ces cas, il ne s'agit pas de recommandations lechatrila, de prime abord? Chayavin loka amina. La Gemara répond, je ne parle pas des cas où il est enseigné Chayavin, car le mot lui-même, Chayavin, on est tenu, on doit réaliser cette mitzvah, nous indique qu'il s'agit d'une recommandation de prime abord. Et la Me'ata, à Kol Somrin, Echad Anashim ve Echad Anashim, la Gemara demande alors, comment comprendre le cas suivant? Tous, aussi bien les hommes que les femmes, doivent faire la smicha, appuyer les mains sur la tête de l'animal, avant de l'offrir en sacrifice. Achinami delav lechatrila. Est-ce que dans ce cas où il n'est pas enseigné le mot Chayavin, on devrait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une recommandation Lechatrila, de prime abord? Vehaktiv, le verset nous dit pourtant, Vesamach Yado, Venirza, la smicha, l'appui des mains sur la tête de l'animal avant de l'offrir en sacrifice, est une étape qui fait partie du processus du sacrifice. La Gemara conclut, In, effectivement, Ika Akol Lechatrila, Veika Akol Diavad. Il y a des cas où le mot Hakol introduit dans une Mishnah une expression qui est Lechatrila, de prime abord. Et il y a d'autres cas où une expression introduite par le mot Hakol devra être comprise a posteriori. Et là, Hakol de Acha, mais le début de notre Mishnah qui commence par Hakol et dit Hakol Shochatin, tous peuvent faire la Shrita, Mimai de Lechatrila hu, de Tikshelecha. D'où sais-tu que le sens de cette expression doit être entendu de prime abord? Ce qui te fait voir une contradiction avec la seconde partie de la Mishnah, qui dit Veshritatan Kshera, et qui semble être une expression a posteriori. Une fois que la Shrita est effectuée, elle est quand même kasher. Dilma Diavad Hu, Velotik Shelecha. Peut-être qu'il faut comprendre même le début de la Mishnah comme étant dit a posteriori, et à ce moment-là, il n'y aura plus de contradiction. En effet, on vient d'établir que les expressions commençant par Hakol ont parfois un sens de l'Echatrila, tu peux faire ça a priori, et parfois un sens de Diavad. Une fois que cette chose-là a été faite, bien qu'il ne fallait pas la faire, elle sera cependant acceptée. Amarle, Ana Shritatan Kshera Kashiali. Ravashi a répondu à Ravacha Bered Rava, qui venait de lui faire tout ce développement sur le sens de Hakol. La difficulté que j'ai à interpréter le début de cette Mishnah ne provient pas du sens de Hakol Shochatin, mais de Shritatan Kshera. La Shrita sera considérée comme valide. Mide Katan et Shritatan Kshera, dit Avad. À partir du moment où la Mishnah enseigne, cette Shrita sera considérée comme kasher, comme valide, qui est une expression diavad a posteriori, c'est-à-dire après coup. Une fois que cette Shrita est effectuée, elle sera cependant acceptée. Miklal, Deakol, Lechatrilahu. De ce fait, on est obligé de comprendre que la première expression de Hakol Shochatin est dite de prime abord. Dei diavad, tarte diavad, lamali. Car si même la première expression Hakol Shochatin était elle aussi diavad, avait un sens après coup, a posteriori, pourquoi la Mishnah emploierait-elle deux expressions après coup, ce qui serait une répétition sans aucun enseignement supplémentaire? Ayant bien mis en évidence la contradiction entre les deux expressions de la Mishnah, la Gemara propose maintenant une première lecture de la Mishnah qui permettra de rendre compte de cette contradiction. Amar Rabba Baroula, Ari Katane. Rabba le fils de Oula dit, c'est ainsi qu'il faut comprendre la Mishnah. Hakol Shochatin, tous peuvent faire la Shrita, Vafilu Tame Bechulin. Cela inclut également quelqu'un qui serait Tame, qui se traduit approximativement par impur, c'est-à-dire une personne qui est entrée en contact avec un mort ou avec une autre source de Touma, d'impureté, et ce Tame en question voudrait consommer de la viande Chulin, c'est-à-dire de la viande d'un animal commun, et non de la viande provenant d'un korban, d'un sacrifice. La Gemara pose une question rhétorique. Tame bechulin maile memra. En quoi serait-il problématique pour un tamé de consommer de la viande qui n'est pas kodesh, qui n'est pas de la viande de sacrifice? Et elle répond. Bechulin shenaasu al tarat hekdesh. Il s'agit de chulin, de viande profane, mais qui était consommée avec la même tara, avec toutes les lois de pureté, qui sera en vigueur s'il s'agissait de viande de sacrifice. En effet, les gens qui ne voulaient pas être pris au dépourvu lorsqu'ils auraient à consommer de la viande de sacrifice, s'habituaient à consommer toute viande avec la même tahara, les mêmes lois de pureté, et à la tenir éloignée de toute source de touma que s'il s'agissait de la viande de sacrifice. Dans ces conditions, cette viande prend alors les mêmes lois que la viande de sacrifice, Midé Rabbanan. C'est ce que dit la Gemara, Veka Savar, et il pense que Chulin Shenaasu Altar Tekdesh que Kodesh Damo. Il est donc évident que quelqu'un de Tamé n'a pas le droit de toucher cette viande. La Gemara demande Ketsad ou Ose. Comment va donc faire cet homme Tamé pour réaliser la Shrita de cet animal? Mevi Sakin Aruka. Il apportera un long couteau, Veshochetba, et fera la Shrita avec, Kedesh Eloïga Bebassar, afin qu'il ne touche pas la chair de l'animal. Rabba Baroula vient donc d'expliquer que les deux premiers mots de la Mishnah, Hakol Shochatin, incluent le Tamé, qui a le droit, l'Echatrila, de faire la Shrita, bien qu'il s'agisse d'un animal Chulin, qui n'est pas un Korban, mais qui est consommé Altar Atekdesh, dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'un Korban. Il nous explique maintenant la suite de la Mishnah. Ube Mugdashin lo Ishrot, mais en ce qui concerne les Korbanot, les animaux qui sont réellement offerts en sacrifice, le Tamé n'aura pas le droit de leur faire la Shrita, Shema Iga Bebassar, de crainte qu'il ne touche leur chair. Veim Shachat. Mais dans le cas où il aurait quand même fait la Shrita, Veomer Barili chez l'Onagati, et qu'ils disent « Je suis certain de ne pas avoir touché la chair de l'animal », Shrita Tokshera, sa Shrita sera valide. Ainsi, lorsque la Mishnah dit en second lieu Shrita Tokshera, c'est pour nous enseigner d'après Rabba Baroula que si le Tamé a fait la Shrita d'un korban, d'un sacrifice, bien qu'il n'en ait pas le droit, mais qu'il est sûr de ne pas avoir touché l'animal, dans ce cas, Shrita Tokshera, sa Shrita sera acceptée, Bedi Avad, a posteriori. Nous poursuivons la lecture de la Mishnah, Chutz mi Chereshote Vekatan, à l'exception du sourd-muet, du fou et de l'enfant, Deafilo Bechulin Gride, Diavad Namilo. Quant à eux, même s'ils ont fait la Shrita d'un animal Chulin, un animal du commun, elle ne sera pas valable, même Bedi Avad, même a posteriori, Shema Yishe, Shema Yidresu, le Shema Yachlidu. De peur qu'ils commettent trois imperfections dans l'acte de la Shrita qui rendent l'animal Nevela, c'est-à-dire comme si cet animal était mort sans Shrita. Ces trois défauts dans l'acte de la Shrita sont Sheiya, marquer une interruption, Drissa, exercer une pression au lieu de couper, et Chalouda, si le couteau est recouvert par la peau de l'animal. La Gemara demande, Vechulan Shech Shechatu, Ayea. La fin de la Mishnah qui dit, et tous, lorsqu'ils ont fait la Shrita sous surveillance, la Shrita sera acceptée. De quel cas s'agit-il? Ilema Hereshote Vekatan, si cela revenait sur le cas du sourd-muet, du fou et de l'enfant, à l'Akai, étant donné que la Mishnah est en train de parler de leur cas, Ve'im Shechatu Mibaele. Elle aurait dû continuer sa phrase, étant donné qu'on sait de qui il s'agit, et dire, s'ils ont fait la Shrita, cette Shrita sera acceptée. On est donc obligé de dire que cette fin de Mishnah vient inclure un autre cas que Cheresh Otev Katan, et là, un Tamé Bechulin. Il s'agirait du Tamé qui aurait fait la Shrita d'un animal du commun. Ha Marta Lechatrilana Mishachit. Or nous avons dit que le Tamé peut de prime abord faire la Shrita lorsqu'il ne s'agit pas réellement d'un korban, d'un sacrifice. Ve'ela atame be'mukdashin. La Gemara revient et dit cela inclura plutôt le tamé qui aurait fait la Shrita d'un korban. La Gemara continue be'baril isage. Nous avons déjà appris que s'il dit je suis sûr de ne pas avoir touché l'animal, cela suffit pour valider sa Shrita et on n'a pas besoin de surveillance supplémentaire. La Gemara répond delite kaman denishaile. Il s'agit d'un cas où le shochet tamé n'est plus devant nous pour qu'on puisse lui demander s'il est sûr de ne pas avoir touché l'animal pendant la Shrita. Dans ce cas, s'il a été surveillé, on pourra se fier aux observateurs pour valider cette Shrita et pour dire que le tamé n'a pas touché l'animal ou qu'il n'y avait pas de défaut dans la Shrita de l'enfant. Ainsi, d'après Rabba Baroula, la Mishnah a sous-entendu les dinim, les lois du tamé quant à la Shrita des korbanot, des sacrifices, les chatrila de prime abord, il n'a pas le droit de la faire, de peur qu'il touche la chair de l'animal, mais s'il l'a faite et qu'il est certain de ne pas avoir touché la chair de l'animal, sa shrita sera acceptée. S'il n'est pas là et qu'une tierce personne a vu qu'il n'a pas touché l'animal dans sa shrita, la shrita sera également, bediavad, a posteriori, acceptée. La Gemara demande, Haitame bimukdashin, me'acha nafka, me'atam nafka. Est-ce que la loi du tamé qui ferait la shrita des korbanot est apprise d'ici? Non, me'atam nafka. Elle est tirée de là-bas, d'un autre endroit, de la Maseret Zvachim d'Aflam et d'Alef, qui dit Kol Absulim Sheshachatu Shritatan Kshera, tous ceux qui sont impropres à effectuer le service de sacrifice dans le temple, et qui auraient fait la Shrita d'un korban, d'un sacrifice, leur Shrita sera a posteriori valide. Shashrita Kshera Bezarim, car la Shrita est acceptée lorsqu'elle est effectuée même par des Yehudim qui ne sont pas Kohanim, contrairement aux étapes suivantes de la réalisation du sacrifice, qui ne sont pas valables si elles ne sont pas effectuées par des Kohanim, Benachim, il en est de même pour les femmes, ou Be'avadim, pour les esclaves cananéens, ou Betmeim, de même pour les gens qui sont tamés, impurs, Ve'afil ou Be'katche Kadashim, même s'il s'agit des sacrifices qui ont la sainteté la plus haute, ou Bilvad, Sheloyiu, Tmeim, Nogin, Be'basar, à condition que ceux qui sont impurs ne touchent pas la chair de l'animal. Cet enseignement est donc énoncé clairement dans la Maseret Zvachim, ce qui pose une difficulté sur l'explication de Rabba Baroula, qui voulait dire que cet enseignement fait l'objet de notre Mishnah. Il répondra « Acha ikar, atam, aydeletana shar psulim, tananami, tamebe mukdashim. » Cet enseignement est essentiellement donné par notre Mishnah, et dans Zvachim, il est simplement cité dans l'énumération de l'ensemble des gens qui sont psulim, impropres à la réalisation du service du Bet HaMikdash. Veibaitema, si tu veux, je te donnerai une seconde réponse. Atamikar, l'enseignement essentiel que la Shrita d'un tamé est a posteriori acceptée lorsqu'il s'agit d'un sacrifice, est donné dans Zvachim, qui est la Maseret, le traité, où l'on parle de toutes les lois relatives au sacrifice. Acha, aide de tana tamé bechulim, tane nami, tamé bemukdashim. Alors que notre Mishnah, qui était préoccupé par l'enseignement du tamé qui ferait la Shrita d'animaux chulin, du commun, consommé Altar et Tekdesh, a enseigné en passant le cas du tamé qui ferait la Shrita de Korbanot. Relisons maintenant la Mishnah telle que l'explique Rabba Baroula. Hakol Shochatin. Le mot Hakol signifie que l'Echatrila, de prime abord, tous peuvent faire la Shrita. Car si le sens était Bediavad, a posteriori, la Mishnah n'aurait pas besoin d'y revenir en ajoutant par la suite Veshritatan kshera. Donc, comme le mot akol signifie parfois l'echatrila a priori et parfois bediavad a posteriori, on retiendra ici le sens de l'echatrila a priori, pour ne pas qu'il y ait de répétition dans la Mishnah. Lorsque la Mishnah dit hakol shochatin, tous peuvent faire la shrita, on parle de faire la shrita d'animaux du commun, des choulin, mais qui sont altar et tekdesh, c'est-à-dire consommés dans les mêmes conditions de pureté que s'il s'agissait de sacrifices. Ces animaux, le tamé, celui qui est impur, peut en faire la shrita en utilisant un long couteau et on lui permet de le faire l'echatrila, de prime abord, sans craindre qu'il va peut-être toucher la viande. Dans la deuxième partie, la Mishnah dit Veshritatan Kshera, en ce qui concerne les sacrifices eux-mêmes, le tamé n'a pas le droit de faire a priori la shrita, on craint qu'il ne touche la viande. Il s'agit ici de sacrifices réels et l'interdiction de les rendre tamé est minatora. Mais si le tamé a, bediavad, a posteriori, effectué la shrita, et qu'il est certain de ne pas avoir touché la viande, sa shrita sera acceptée. Troisième partie de la Mishnah, à l'exception du sourd-muet, du fou et de l'enfant, ceux-ci n'ont pas le droit du tout de faire la shrita, même s'il s'agit d'animaux du commun, on craint de leur part des défauts dans l'acte de faire la shrita, qui invaliderait cet abattage. Dernière partie de la Mishnah, la shrita de tous, à partir du moment où elle a été surveillée par des gens fiables, sera bediavad a posteriori acceptée, qu'il s'agisse d'un cheresh ou tevekatan, un sourd-muet, un fou ou un enfant, ou bien un tamé, quelqu'un d'impur, dans le cas où il n'est plus là pour nous dire qu'il n'a pas touché la viande de sacrifice. Reprenons maintenant plus en détail quelques-uns des points que nous avons étudiés dans ce daf. Dans la Mishnah tout d'abord, qui dit « Akol Shochatim », tous peuvent effectuer la shrita. Tosfot étudie la question de savoir est-ce qu'une femme peut faire la shrita. Il cite le texte de Hilchot Eret Israël qui dit « Les femmes ne font pas la shrita car elles ont datan kalot, une certaine faiblesse d'esprit qu'il faudra préciser davantage. » Le Mordechi, à ce même sujet, dit la chose suivante. « Katav Ravenu Baruch, Raiti Katuv Beilchot Shrita, Shevi Rabbi Eldad Ben Machli, Abba Miaseret Hashvatim » et la référence qu'il apporte a suscité énormément d'intérêt, car il cite Ravenu Baruch, qui lui-même a vu les textes apportés par Rabbi Eldad Ben Machli, qui provenaient des 10 tribus, les 10 tribus qui ont été exilées à la destruction du Beth Amikdash et dont les traces ont été perdues. D'après certains, ces tribus auraient gardé des contacts avec le reste du monde juif, et les chercheurs se sont penchés avec beaucoup d'intérêt sur cette citation, qui est l'une des seules traces authentifiées que de tels échanges aient eu lieu avec les 10 tribus. Voici la citation en question. « Amar Yeshua Mipi Moshe Mipi Agvora » Yeshua a dit au nom de Moshe et lui-même au nom d'Hachem, Ashrita Asura Miyad Isha, Miyad Saris, Miyad Zaken, Achar She'avru Alav Shmonim Shana, Uminar Achim Leu 13 Shana. La Shrita est interdite si elle a été effectuée par une femme, par un eunuque, par un vieillard qui a dépassé 80 ans et par un jeune qui n'a pas encore atteint 13 ans. D'après Tosfot, il s'agit d'une Chumra Be'alma. Ils ne pensent pas qu'il faille être si strict, et pour eux, une shrita effectuée par une femme serait valide. Le Beit Yosef précise le sens de Nashim Datan Kalot, la faiblesse d'esprit des femmes qui invalideraient leur shrita. Il dit qu'il s'agit du Chashash Ilouf, la crainte qu'une femme ne s'évanouisse à la vue du sang, ce qui entraînerait certainement une défaillance dans l'acte de couper. Le Kolbo et le Rabbeinu Yerucham, quant à eux, expliquent cette faiblesse d'esprit d'une autre façon, si une femme faisait une shrita dont elle allait consommer, il n'y aurait pas de problème. Mais lorsqu'elle l'effectue pour les autres, on pourrait craindre qu'elle ne soit pas assez pointilleuse sur l'interdit de l'ifne iver lotiten mirchol. Ne mets pas d'obstacle devant l'aveugle, qui est l'interdit d'entraîner que quelqu'un ne faute à cause de son ignorance des faits. Les acharonim se demandent, d'où a-t-on vu que les femmes ne seraient pas scrupuleuses s'il s'agit d'un interdit qui ne les concerne pas directement. Dans la Gemara de Yoma, d'Af Pedalet Amudbet, on apprend que lorsqu'il y a un danger de mort, on doit être Mechalel Shabbat, on doit transgresser le Shabbat pour sauver la vie de la personne en danger. Ceci, on ne doit pas le faire ni par des goyim, ni par des ktanim, par des petits, mais seulement par des gdolé Israël, des adultes juifs, pas non plus par des femmes ou par des coutumes, des gens dont la conversion a été imparfaite. Le Rif, sur place, en donne la raison suivante. Il dit, tous ces gens-là sont mitzarfim les da'at acheret. Ils vont ajouter une autre raison, ce que le Ran explique de la façon suivante. On ne va pas sauver une personne en danger le Shabbat par l'intermédiaire d'un enfant, car à ce moment-là, les gens vont penser, ceux qui n'ont pas étudié, que sauver une personne en danger le Shabbat n'est pas vraiment permis. Et donc, dans le cas où il n'y aurait pas d'enfant, ils ne voudront pas transgresser le Shabbat pour sauver une personne en danger. C'est pour cela que la Gemara exige que ce soit des adultes, précisément, qui viennent au secours de personnes en danger le Shabbat, pour que cela soit clair dans les esprits, que le pikuach nefesh, le danger de mort, repousse le Shabbat. La raison pour laquelle on ne demande pas non plus à une femme ou à un kouti d'intervenir, est de peur qu'ils ne pensent la chose suivante. Si on nous a demandé d'intervenir, c'est que les hommes adultes ne voulaient pas, eux, transgresser le Shabbat, car cela doit certainement être interdit, et ils préfèrent nous faire fauter que de le faire eux-mêmes. En d'autres termes, les femmes et les coutumes vont penser, ceux qui nous demandent de faire ça ne font pas attention à l'interdit de l'ifnéiver, de faire trébucher, faire fauter quelqu'un qui est ignorant d'une situation. Et si quelqu'un porte un tel jugement sur les autres, c'est certainement que eux-mêmes également ne se préoccuperaient pas d'éviter aux autres une transgression. Sans cela, ils ne pourraient soupçonner les autres de les faire commettre une transgression en profitant de leur ignorance. Telle est la source dans la Gemara, où l'on voit que les femmes ne sont pas scrupuleuses sur le fait d'éviter aux autres une transgression, comme elles le seraient pour elles-mêmes. La halakha, la loi qui est retenue par le Shulchan Aruch, Ilchot Shrita, Yoredea, Aleph, Aleph, d'après Rabbi Yosef Karo, tout le monde peut faire la Shrita, l'Echatrila, de prime abord, y compris les femmes. Le Rama ajoute que l'on a pris dans certains pays de ne pas donner aux femmes à faire la Shrita, et que ainsi est le Minag, l'attitude qu'il conseille. Ce dernier suit donc les Ilchot Eretz Israël qui ont été rapportés par le Tosfot. Autre point que nous avons étudié dans le Daf Bet Amud Bet, une personne qui est tamée, qui est entrée en contact avec une source d'impureté, ne doit pas effectuer la Shrita de peur qu'elle ne touche l'animal et le rende à son tour tamé. Mais si Bediavad, a posteriori, un tamé a fait la Shrita, elle sera valide. Rabbeinu Ephraim pose la question suivante. Dans Zvachim, lorsqu'on parle de la Shrita d'un tamé, il s'agit d'une Shrita effectuée dans le Bet Amigdash, le temple. Or, un tamé, quelqu'un d'impur, n'a pas le droit de pénétrer dans le temple. Il faudrait alors envisager que ce tamé fasse la Shrita avec un couteau si long qu'il permette au Shochet de se trouver à l'extérieur de Har HaBayit, la cour du temple, et d'effectuer la Shrita dans la Ezrat Israël, à l'intérieur du Bet Amigdash, car si l'on parle même d'un Tmémet, quelqu'un qui a été rendu impur par contact avec un mort, il devra se trouver à l'extérieur de Har HaBayit. Et si l'on parle d'un Tmécheret, quelqu'un qui a été rendu impur par contact avec l'un des 8 reptiles morts, la Ezrat Nashim, à l'extérieur de laquelle il doit se trouver, a quand même une longueur de 135 coudées. Une telle réalité est difficilement envisageable. 3 réponses sont données dans Tosfot. Rabbeinu Tam, tout d'abord, explique qu'il s'agit d'un cas où le tamé est devenu tamé dans le Beth Amikdash même. Il était déjà dans la Hazara, dans le Beth Amikdash, lorsqu'il a été touché par une source d'impureté. Et c'est dans ce cas où la Shrita qu'il aura effectuée sans toucher l'animal sera valide. Une seconde réponse est donnée par le Ri, qui dit « C'est seulement dans Ezrat Nashim où le tamé n'aura pas le droit d'entrer. Mais par les côtés, il pourra s'approcher jusqu'au Machane Shrina, jusqu'à l'endroit où est effectuée la Shrita des Korbanot. » La troisième réponse qui est donnée dit qu'il s'agit d'un animal qui était kadosh, sanctifié pour être sacrifice, mais en un temps de l'histoire où le Beth Amikdash n'était pas encore construit et où il y avait Eter Abamot. Le particulier pouvait, à cette époque, construire dans son domaine un autel sur lequel il avait le droit d'effectuer ses sacrifices. À cette époque, il n'y avait pas d'interdiction que celui qui effectue la Shrita du sacrifice soit tamé. Les Tosfot dans Zvachim Lamed Aleph Amud Bet donne la réponse de Rabbeinu Ephraim lui-même à sa propre question. D'après lui, le tamé monté sur les gagim et les aliot, il s'agit d'un cas où il était situé en hauteur sur les toits et les balcons du Beth Amikdash, qui sont des endroits qui n'ont pas la sainteté du Beth Amikdash, et c'est d'en haut que ce tamé effectuait la shrita en question. Une cinquième réponse est donnée par le Rambam dans Pirush HaMishnayot, dans Zvachim. Il dit tout simplement qu'il s'agit d'un cas d'un tamé qui, en transgressant l'interdiction d'entrer dans le Beth Amikdash, ou volontairement ou involontairement, est allé effectuer la shrita de l'animal. À toutes ces réponses à la question de Rabbeinu Ephraim, il faut ajouter une réflexion du Chazon Ish qui sera utile en de nombreux endroits du Talmud. Parfois, la Gemara pose une question sur une Mishnah ou une Braïta, et pour y répondre, fait des Hukimtot, c'est-à-dire envisage des cas de figure qui sont extrêmement compliqués et qui semblent très éloignés du sens qui pouvait se dégager des mots simples de la Mishnah ou de la Braïta. Or, parfois, lorsque la Gemara veut résoudre une contradiction en établissant qu'une Braïta ou une Mishnah parle uniquement d'un cas très particulier et lointain de la réalité quotidienne, la Gemara refuse parfois de telles réponses en disant « Shinuya rechika lom shaninan ». On ne peut apporter une réponse trop éloignée de la réalité courante. Il faudrait donc savoir quand est-ce que l'on peut établir qu'un texte parle d'une réalité éloignée de la normalité et quand est-ce que cela n'est pas accepté. La règle est apportée par le Chazon Ish au sujet de la Mishnah dans Nida daf mem gimel amud bet qui dit que un tinok ben yomo ema achil betruma. Et lorsqu'une femme, fille d'un Israël, est mariée à un Kohen qui est décédé et que cette femme a un fils, même si c'est un enfant de un jour, elle pourra continuer à consommer de la Trouma comme elle le faisait lorsqu'elle était mariée, et ceci grâce à la présence de son fils. On apprend cela d'un verset de la Torah. Rabbi Akiva Eger demande sur la Mishnah, comment la Mishnah peut-elle dire que grâce à son nourrisson de un jour, cette femme pourra consommer de la Trouma, alors que, étant donné qu'elle vient d'accoucher, elle est Tmea Leda. Elle contracte par ce fait une impureté qui lui interdit toute consommation de Trouma. La Trouma ne peut être consommée que lorsqu'on est Tahor, que lorsqu'on s'est défait de son impureté. Et Rabbi Akiva Eger répond que la Mishnah fait allusion à un cas particulier, lorsqu'il s'agit d'une Ledat Yotze Dofen, une naissance par césarienne, il n'y a pas dans ce cas-là de Tumat Leda. L'accouché n'est pas impur. Sur cette réponse, le Chazon Ish demande, on voit plusieurs fois que le cas de Yotze Dofen, d'accouchement par césarienne, est appelé par la Gemara l'Oshriach, un cas qui est peu fréquent. Pourquoi donc Rabbi Akiva Eger établit-il la Mishnah dans un tel cas? Il répond de la façon suivante. Le sujet de cette Mishnah est « Qui est apte à consommer la Trouma ?» Lorsqu'une femme d'un Kohen a un fils, même lorsque son mari Kohen est déjà décédé, elle n'est plus Zara étrangère par rapport à la Trouma et à la Keuna, car elle a un fils Kohen et elle pourra consommer de la Trouma. Et la question que pose Rabbi Akiva Eger est une Sheila Tzadit, une question accessoire qui dérange la compréhension précise de la Mishnah, qui est, étant donné qu'à un jour d'accouchement, la maman est Tmea, elle est impure, elle a une impossibilité technique de consommer de la Trouma. Et étant donné que la Torah est une Torah Temet, dont les cas étudiés ont une existence réelle dans le monde, il ne peut donc exister qu'un cas étudié soit impossible à retrouver dans la réalité. Son existence physique doit être une réalité, même si elle doit être éloignée du quotidien. Ainsi, lorsque la question qui est posée est accessoire par rapport au sujet de l'enseignement qui est développé, on peut répondre à cette question par un cas éloigné du quotidien habituel. Car il s'agit alors juste de démontrer que le cas enseigné peut avoir une réalité physique. En revanche, lorsque la question qui est posée par la Gemara ou les Rishonim sur une Braïta est une question qui traite du din même qui est enseigné dans cette Braïta, le sujet même de l'enseignement, on ne pourra pas dans un tel cas répondre à la question en établissant la Braïta dans un cas éloigné de la réalité quotidienne. Dans le cas de notre Mishnah, la nouveauté halakhique qui est exprimée est le tamé, la personne qui est impure, peut cependant effectuer la shrita. Et la question de Rabbeinu Ephraim est tzadit, technique, comment physiquement ce tamé peut effectuer la shrita alors que l'animal doit être dans la hazara du Beth Amikdash, dans la cour du temple, et que le shochet tamé doit être situé impérativement en dehors de la cour du temple. La difficulté n'est donc pas sur la compréhension de la loi elle-même, Mais comment trouver une réalité physique, un cas dans lequel le tamé pourrait effectuer la shrita? Et c'est pour cela que dans ce cas, les réponses éloignées de la réalité habituelle sont acceptées. Fin du cours sur le Daf Bet. Masechet Roulin, Daf Gimel. Nous avons au Daf Bet établi la première Mishnah de la Masechet de la façon suivante. À Kol Shochatin, tous peuvent faire la Shrita de prime abord. Ceci vient inclure le cas du Tamé, la personne impure, qui aura cependant le droit de faire la Shrita de cet animal Roulin, profane, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un sacrifice. Et bien qu'il s'agisse d'un cas où le propriétaire consomme ses aliments Roulin, Altaharat Kodesh, c'est-à-dire avec les mêmes précautions halakhiques que s'il s'agissait de viande de sacrifice, on ne craint cependant pas que le shochet tamé va toucher la viande de l'animal dont il a fait la shrita et le rendre tamé impur. La suite de la Mishnah qui dit Veshrita tam kshera, la shrita sera kasher, et là il s'agit d'un cas de Bedi Avad, a posteriori, nous enseigne qu'un homme tamé n'a cependant pas le droit de faire la shrita d'un korban, d'un sacrifice, de peur qu'il ne touche l'animal, et le rende également tamé. Dans la fin de la Mishnah, où il est enseigné vers Hulan Shechachatu, s'ils ont fait la Shrita sous surveillance, elle sera valide. Nous reprenons la Gemara à la deuxième ligne en partant du bas du Daf Bet Amud Bet, et la Gemara demande Aitame de Itma Bemai. Le tamé dont nous avons parlé, cette personne impure, comment a-t-elle contracté son état de Touma? Il est ma de Itme Bemet. S'il est devenu tamé par contact avec un mort, Bechalal Cherev Amar Rahmana. La Torah emploie au chapitre Yudtet de Bamidbar l'expression Chalal Cherev, le cadavre de quelqu'un qui a été tué par l'épée. Nous passons au Daf Gimel Amud Alef.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud ainsi que le Daf Ayomi quotidiennement en vidéo.